C'est donc à vous, Mathieu Laurent, pour le journal. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, risque d'ethnicisation de la lutte contre le djihadisme dans le Nord Mali après des tueries il y a 48 heures, appel au calme du gouverneur de Ménaka et analyse de François-Xavier Freland. La prudence d'Antoine Bondaz, spécialiste de la Corée du Nord, après des annonces de Kim Jong-un relayées par le Sud, fermeture du site d'essai atomique à suivre. Enfin, avec Nabila Hamel, nous nous attarderons sur la tonalité des propos de Mike Pompeo en Arabie Saoudite. Le nouveau secrétaire d'État américain entend corriger dans les deux sens du terme, l'accord nucléaire iranien. Encore bien des incertitudes dans le Nord Mali, deux jours après des tueries attribuées à des effectifs de l'État islamique jeudi et vendredi dernier. 43 personnes tuées, des civils touaregs, des femmes, des enfants et des personnes âgées, selon certaines sources, de jeunes combattants, selon d'autres témoignages. Ce qui est avéré, ces drames se sont produits dans cette zone aux confins du Niger et du Burkina Faso, où l'opération Barkhane échoue à affaiblir les djihadistes. Ces effectifs de l'organisation terroriste ont en effet essuyé de sérieux revers récemment. Autre aspect qu'il faut prendre en compte, l'instrumentalisation des appartenances ethniques. Ce que n'a pas omis de souligner le gouverneur de Ménaka, la principale ville de la région, Daouda Maïga, au micro de nos confrères de RFI.
L'appel que nous lançons aux différentes communautés, c'est qu'il faut donner une chance à la paix. Nous sommes dans un accord pour la paix et la réconciliation au Mali qui avance assez bien. Et il y a des organisations internationales également, telles que HD ou Prémédiation, qui organisent des colloques. Ils prennent des personnes, les choses, des leaders Peul, des leaders Daoussac, des leaders Kaltamachak, des leaders Sonray, pour pouvoir créer un climat de confiance et de vivre ensemble dans cette zone. Les groupes armés sont composés de beaucoup d'ethnies, de beaucoup de communautés, ainsi également que les éléments de l'État islamique. Il y a des Peul, il y a des Daoussac, il y a des Arabes, il y a des Touaregs. Quelles que soient les motivations qui poussent les gens à y être, ce n'est pas lié à une seule communauté. Mais le fait que tant de personnes soient tuées à deux jours d'intervalle est un signe d'encouragement à un éclatement d'un conflit intercommunautaire, justement en stigmatisant deux communautés, celle des Peul et celle des Daoussac, qui ont toujours eu des difficultés parce que ce sont des pasteurs qui sont sur le même parcours, et avec la prolifération des armes, les conflits ne se règlent plus à coups de rixes ou à coups de bâtons, mais à coups de mitrailleuses. Mais il est important que l'on rappelle à ces communautés que personne ne gagnera à cultiver la haine entre elles et à faire qui a fait plus de morts. Ça ne servira absolument à rien.
Bonsoir François-Xavier Freland.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de Mali au-delà du djihad, publié à l'automne dernier par les éditions Anamosa. Souscrivez-vous au développement du gouverneur de Ménaka, ethnicisation de la lutte?
En fait, je souscris à ce qu'il vient de dire sur la fin, c'est-à-dire que certains essayent un petit peu d'agiter le torchon pour une décomposition de la nation malienne. C'est le diviser pour mieux régner que cherche vraisemblablement les différents groupuscules djihadistes face à l'écroulement de l'État malien au nord et au centre, au manque de développement, la corruption généralisée et donc les frustrations des populations, quelles que soient les ethnies qui existent, qui ont jusque-là toujours cohabité d'ailleurs sans difficulté, hein, jusqu'à la division du pays entre le nord et le sud et cette occupation islamiste en 2012, mais jusque-là, au Mali, il n'y avait jamais eu vraiment véritablement de problème d'ethnie, si ce n'est entre les Touaregs du Nord, qui depuis les indépendances ont toujours voulu leur indépendance pour une partie. Donc ce repli identitaire ethnique existe au Mali, surtout face au manque d'État malien, et je crois qu'on rentre dans une propagande djihadiste qui consiste à diviser cette nation malienne pour mieux s'imposer à travers un islam radical et affaiblir la sécurisation des forces maliennes, étrangères et françaises en particulier.
Mais est-ce qu'on ne serait pas tout simplement dans des représailles dans le cadre d'un conflit classique, après des dizaines d'exécutions sommaires de ses membres, l'organisation islamique, a peut-être simplement riposté?
Oui, mais en fait, plus qu'une ethnicisation du conflit, je crois qu'on assiste surtout à une internationalisation du conflit. C'est beaucoup plus grave parce qu'en fait, il faut bien comprendre que d'anciens combattants djihadistes de l'Irak et de Syrie, voire de Libye, ont rejoint et rejoignent le Sahel depuis la déconfiture vécue notamment au Proche-Orient, où notamment l'État islamique a disparu à Mossoul. Les services de renseignement ont constaté sur place des mouvements de djihadistes, de combattants. Donc ce sont pour la plupart des combattants aguerris qui arrivent de conflits importants. Et il faut rappeler quand même que dans cette région du Nord Mali, c'est d'abord, il y a le groupe État islamique qui vient de se recréer, qui a été créé il y a un an par un émir qui s'appelle Al-Sarraoui, qui est d'ailleurs d'origine, comme son nom l'indique, Sarraoui, donc plutôt Maroc. Donc lui, il viendrait plutôt du Maghreb, et ce groupe État islamique est en concurrence avec l'Al-Qaïda ACMI, vous savez, Al-Qaïda qui a toujours été le mouvement djihadiste étranger au nord du Mali, qui a toujours été le plus prépondérant. Et aujourd'hui, ces deux mouvements, eh bien, se font une guerre sans merci pour récupérer la région du nord Mali. Et on peut craindre surtout, eh bien, que petit à petit, ils tirent un petit peu sur les failles de cette nation malienne qui évidemment est en difficulté pour, comme je vous le disais tout à l'heure, imposer leur drapeau noir.
Alors, d'un mot finissant, François-Xavier Freland, donc internationalisation du conflit, faillite économique, faille politique. D'un dernier mot, on voit que ce qui était principalement visé, ce sont des factions du MSA, un mouvement dissident du MNLA, le mouvement Touareg de libération de la Zaouat. C'est un vrai venin, ça, pour les djihadistes.
En fait,
c'est le contrepoint, oui.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que, bizarrement, contrairement à ce qu'on entend souvent, le fameux accord de paix d'Alger signé à Bamako en mai-juin 2015, qui a été longtemps à se mettre en route, commence aujourd'hui à être effectif. Vous avez de plus en plus de patrouilles mixtes, hein, ce qu'on appelle les patrouilles mixtes, c'est-à-dire des patrouilles de militaires maliens et de ces différents groupuscules Touareg indépendantistes qui, désormais, font la sécurité dans certains villages, main dans la main, notamment dans la région de Ménaka. Et ça, on peut dire que ça ennuie considérablement la volonté, notamment du groupe État islamique, de s'imposer dans cette région, et que par conséquent, face à cette alliance entre les groupuscules indépendantistes et maliens, on joue sur la corde ethnique pour contrer cette unité malienne qui est en train de se reconstituer.
Merci à vous, François-Xavier Freland. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Mali au-delà du djihad, publié aux éditions Anamosam. L'organisation État islamique n'a effectivement pas été intégralement chassée de Syrie. Damas la bombarde dans ses faubourgs sud depuis des mois. Les médias officiels prétendent qu'un accord d'évacuation a été conclu à la mi-journée avec les combattants des quartiers de Yalda, Babila et Beit Sahem. D'autres combats, cette fois, et c'est plus rare, à la frontière irakienne, sur les rives de l'Euphrate, entre troupes loyalistes et des forces démocratiques syriennes. Cette coalition dominée par des milices kurdes. La Corée du Nord va fermer son site d'essai nucléaire dans quelques jours, avant la fin du mois de mai en tout cas, en présence d'experts américains. C'est la présidence sud-coréenne qui l'a annoncé, quelques jours seulement, après un sommet historique entre les deux Corées. C'est une annonce importante, une nouvelle étape, mais prudence, estime Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
C'est encore une fois une bonne chose dans la voie de la dénucléarisation, mais c'est comme si un peu l'objectif d'un pays serait de se débarrasser de l'ensemble de ses armes à feu, qu'on fermait un centre de tir, mais qu'on continuait à produire des armes à feu et qu'on continuait à posséder des armes à feu. C'est donc encore une fois quelque chose d'une bonne chose, il faut garder un optimisme, mais un optimisme prudent, on est encore extrêmement loin de l'objectif de la communauté internationale. La grande annonce en réalité de vendredi, c'est l'avancée entre les deux Corées sur le chemin de la paix, puisque historiquement, signer la paix avait été annoncé à de nombreuses reprises. Là, la nouveauté, c'est qu'on a un calendrier, les deux Corées annoncent qu'avant la fin de l'année, la paix sera signée. C'est encore une fois une extrêmement bonne chose. Cependant, il faudra attendre surtout le sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump pour avoir des avancées concrètes sur la question de la dénucléarisation. L'objectif étant de transformer des promesses politiques en des engagements techniques, c'est-à-dire une feuille de route vers la dénucléarisation.
Et le nouveau secrétaire d'État américain dit voir, je cite, une vraie opportunité de progrès dans ses engagements. Mike Pompeo, dit-il, a discuté avec le leader nord-coréen lors du week-end de Pâques d'un mécanisme complet, vérifiable et irréversible. Mike Pompeo a articulé ses propos à Riyad, où il est opportun de ne pas retenir ses coups sur l'accord nucléaire iranien, Nabila Hamel.
En tout cas, c'est toujours le chaud et le froid qui est soufflé à propos propos de cet accord. À peine investi dans ses nouvelles fonctions de secrétaire d'État et tout juste avant d'entamer sa tournée au Golfe et au Proche-Orient, Mike Pompeo estimait vendredi que l'hypothèse la plus probable était que Donald Trump annonce prochainement sa sortie de l'accord de juillet 2015. Aujourd'hui, le chef de la diplomatie américaine et le conseiller à la sécurité nationale John Bolton sont plus nuancés. Le président américain, disent-ils, n'a pas encore pris de décision. Sur la chaîne américaine Fox News, John Bolton expliquait même que le chef de la Maison-Blanche était certainement en train d'examiner la proposition du président Macron sur l'ouverture de négociations pour un nouvel accord élargi. Cela vaut la peine d'y réfléchir, disait le conseiller de Donald Trump tout à l'heure. Hier et ce matin, à Riyad, Mike Pompeo a d'abord opté pour un ton dur vis-à-vis de l'Iran. L'Iran déstabilise la région et contrairement à l'administration précédente, celle d'Obama, nous ne négligeons pas la vaste étendue du terrorisme iranien. Fin de citation. Il avait dit ça avant de quitter l'Arabie Saoudite, un discours partagé par les autorités saoudiennes qui voient l'Iran comme leur principal ennemi dans la région. Devant Mike Pompeo, Riyad a d'ailleurs une nouvelle fois plaidé cet après-midi pour un durcissement de l'accord sur le nucléaire iranien et davantage de sanctions contre Téhéran. Cela dit, le secrétaire d'État américain a tout de même, au passage, assuré que Washington allait continuer à travailler avec ses alliés européens pour corriger cet accord. Le corriger, en sortir, on est toujours dans un entre-deux pour le moment.
Merci à vous, Nabila Hamel. Et il faut dire, Nabila Hamel, que Theresa May, Angela Merkel et Emmanuel Macron se sont parlé par téléphone ce dimanche et ont rappelé leur engagement à continuer de travailler étroitement ensemble et avec les États-Unis sur la façon d'aborder les défis que pose l'Iran, y compris les sujets qu'un nouvel accord pourrait couvrir. Fin de citation. Les élections législatives de dimanche prochain verront le renouvellement de l'Assemblée nationale du Liban. Aujourd'hui, ce sont les Libanais qui vivent à l'étranger qui sont appelés aux urnes de leur pays de résidence. Et c'est une première dans l'histoire du pays. Le reportage de Marion Casanov.
Il est l'un des 8600 Libanais de France qui se sont inscrits au scrutin. Carlos Fadoul, président de l'association culturelle Amitié Neuilly-Liban, se réjouit de pouvoir voter pour la première fois à une élection libanaise.
Une satisfaction parce que c'était assez compliqué de pouvoir voter jusque-là. Il fallait se déplacer au Liban impérativement. Le fait que les Libanais puissent s'exprimer dans leur pluralité politique, c'est déjà presque un exploit dans le contexte proche-oriental.
Dans toute la diaspora libanaise, ils sont quelque 80 000 à s'être inscrits, alors qu'ils seraient près d'un million à avoir ce droit. Mais pour l'ambassadeur du Liban en France, Rami Adouan, c'est un bon début.
C'est un signal très encourageant. Cette première historique marque un tournant dans la démocratie libanaise, dans la mesure où les Libanais qui ont profité d'une expérience démocratique à l'étranger viennent enrichir la démocratie locale.
Au consulat du Liban à Paris, le ministre de la Justice libanais, Salim Jressati, assume le petit électorat de la diaspora.
C'est important pour nous de faire savoir à tous ces gens-là, aujourd'hui 90 000, demain peut-être 200, 300, 400 et peut-être 1 million, nous avons besoin de vous aujourd'hui pour participer à la vie publique. Ils ne pèseront pas, mais ils participeront. Le but n'est pas électoral, le but est national.
Le Liban n'avait pas connu d'élection législative depuis 9 ans, des années dans la tempête de la guerre en Syrie. Aujourd'hui, les Libanais l'espèrent, ce scrutin est peut-être le signe d'une accalmie durable.
Le naufrage au large des côtes algériennes d'une embarcation avec 15 personnes à son bord, aucun survivant selon les gardes-côtes. Le bateau a coulé au large des côtes oranaises selon la télévision NAR. Ce sont les prévisions de la direction de la SNCF. Retour à un trafic quasi normal demain dans l'après-midi. Le sixième épisode de la grève prendra fin demain matin à 8h. Le nouveau secrétaire général de Force ouvrière, Pascal Pavagnaud, demande au gouvernement un moratoire sur le ferroviaire pour, ajoute-t-il, reprendre sereinement les discussions. Quelques mots de la météo de demain lundi. Temps pluvieux, venté et très frais, perturbé sur une grande partie du pays. 12 départements du nord et de l'est en alerte orange aux orages, aux pluies, inondations. Cette édition a été préparée avec Caroline Benetto.